Parmi les dieux les plus éminents du panthéon hindou, Shiva occupe une position particulière. C'est le dieu de la violence et de la destruction, un dieu essentiel puisque, dans la conception hindoue du monde, qui est cyclique, sans destruction, il ne peut y avoir de création. On le voit donc souvent représenté, détruisant le monde dans une danse frénétique, entouré d'un halo de flammes qui représente l'incendie cosmique. Mais Shiva, c'est aussi et surtout le dieu de l'accomplissement spirituel. C'est vers lui que se tournent les êtres en quête des plus grands degrés de conscience. Des degrés de conscience qui s'accommodent mal des règles et des cadres stricts de la société, que ce soit celle des hommes ou celle des dieux. C'est pour cela que dans un premier temps, Shiva est mis au banc de la société des dieux. On le respecte autant qu'on le craint. Aussi, quand la déesse Sati tombe amoureuse de lui, le père de cette dernière voit cette union d'un très mauvais œil et oublie d'inviter Shiva, le paria, au grand sacrifice qu'il s'apprête à célébrer et auquel il invite tous les autres dieux. Cet affront, il va le payer. Il va le payer très cher parce que Sati, de colère, se jette dans le feu du sacrifice. Le puissant Shiva, portant le corps de son amante sur son dos, marche sans but. Il dégage une puissance qui compromet l'équilibre fragile du monde, et peu s'en fallut que le monde fût détruit. Mais le hasard fait bien les choses, et Sati va renaître sous la forme de Parvati. Shiva célibataire reste un danger pour le monde. Son énergie est trop puissante, et pour la maîtriser, les dieux n'ont de cesse d'essayer de le marier. Entreprise délicate puisque Shiva ne s'intéresse qu'à la méditation dans les zones les plus sauvages, les montagnes, les forêts. Ainsi, pour lui plaire, la douce Parvati devra se livrer aux mortifications les plus dures. Méditant sous le soleil, immobile et ne s'alimentant que d'air et de l'eau tombée du ciel, son corps charmant deviendra comme une écorce. Et c'est comme cela qu'elle sera remarquée par le grand ascète. Les dieux sont fourbes, et pour s'assurer de l'emprise de Parvati sur Shiva, ils envoient avec elle le dieu Kama, le dieu du désir, pour percer Shiva d'une flèche. Mais Kama n'a pas le temps de bander son arc que Shiva le réduit en cendres de son troisième œil, l'œil de la connaissance. Ému par Parvati, Shiva accepte la jeune fille et lui propose de l'épouser à la mode des Gandharva, c'est-à-dire selon le principe de l'union libre. Mais Parvati refuse, elle veut qu'il l'épouse selon les règles de la société des dieux. Et non seulement elle aura son mariage dans les règles, mais elle obtiendra même de son époux la renaissance de Kama, condamné cependant à ne plus avoir de corps et, paradoxalement, à être d'autant plus dangereux. Alors, Parvati, épouse triomphante? Pas tout à fait. Shiva reste un ascète et ne sera jamais tout à fait le maître de maison idéal. Shiva vit selon ses propres règles et il aura d'ailleurs une seconde épouse. Tout a commencé par un massacre effroyable, celui des ancêtres d'un grand sage. Des ancêtres qui ne trouvent le repos car leurs cendres n'ont pas pu être purifiées par des eaux sacrées. Ce sage se livre alors aux plus grandes austérités pour plaire aux dieux. Il faut dire que les dieux ont une grande faiblesse. Dès que quelqu'un, un dieu, un homme, un démon se plonge dans l'ascèse, ils flanchent. Et ils se sentent obligés de lui accorder les faveurs les plus déraisonnables. Ça les met souvent dans les situations les plus dangereuses, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de continuer, c'est plus fort qu'eux. Toujours est-il que le grand sage arrive à ses fins et il demande que la déesse Ganga, la déesse du Gange, descende sur terre pour purifier les cendres de ses ancêtres. Ce n'est vraiment pas raisonnable, car la Ganga est une déesse puissante et sa descente du monde des dieux risquerait de détruire la terre. Il faut trouver une solution, un être assez puissant pour amortir sa chute, et le seul qui puisse faire cela, vous avez deviné, c'est bien Shiva. Shiva accepte la mission qui lui est confiée par les dieux. Il tendra une mèche de ses cheveux pour que la Ganga puisse y descendre et tomber sur la terre. Seulement, Shiva est badin et la pauvre Ganga se perd dans les boucles de son chignon. Elle peine à trouver son chemin et elle reste d'ailleurs en partie prisonnière de la chevelure du dieu. Mais parce que tel est son bon plaisir, Shiva finit par épouser Ganga. Un mariage dans les normes avec toute la communauté des dieux rassemblés. Et Parvati ? Inutile de dire qu'elle accueillit avec une froideur certaine cette nouvelle venue consacrée par des liens qu'elle avait elle-même eu tant de mal à obtenir. On peut d'ailleurs parfois la voir se détourner de son époux cherchant en vain à l'adoucir dans certaines représentations du sud de l'Inde. Même pour le grand Shiva, apaiser la colère de la déesse est une chose délicate. Néanmoins, c'est bien le couple de Shiva et de Parvati que les peintres de posters représentent de nos jours, paisiblement assis en compagnie de leurs enfants et de leurs montures, leurs silhouettes se découpant sur les cimes du mont Kailasa. Ganga n'est alors figurée que par une petite tête perdue dans les boucles du dieu, crachant un filet d'eau qui est à l'origine de ce fleuve si précieux aux hindous qu'est le Gange.